tous. Bonsoir à tous. Donc nous allons commencer cette conférence qui est donc la seconde conférence du cycle de réflexion que nous vous proposons autour de la question de l'immigration et des luttes contre les discriminations. Donc on est aujourd'hui très heureux pour cette seconde conférence d'accueillir avec nous Emmanuel Santelli, donc qui est directrice de recherche au CNRS, au centre Max Weber à Lyon, et qui nous rejoint aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, pour essayer de réfléchir ensemble autour de la question de cette catégorie de population qu'on appelle descendants d'immigrés. Elle pourra nous en parler à travers différentes problématiques, différents, disons simplement même thématiques, façon d'aborder cette catégorie de population qui est très utilisée en France dans beaucoup de travaux, notamment également d'articles de presse où cette notion et cette catégorie de population est souvent évoquée. Donc Emmanuel va l'aborder et la décliner sous différents angles, notamment la question de l'accès à l'emploi, la question de l'éducation, la question de l'accès à la vie adulte. Juste pour vous donner quelques éléments de repère, vous savez que globalement, les collègues, les personnes qui viennent dans le cadre de ces conférences que nous organisons avec l'espace MADES France publient de très nombreux travaux, je vous en prie, de très nombreux travaux de recherche qui sont accessibles pour certains, en partie sur le net. Et donc là, notamment, dans le cadre de cette conférence, je voulais attirer votre attention sur le fait que Emmanuel Santelli collabore, son centre de recherche et elle-même collabore beaucoup avec l'Institut national d'études démographiques, donc l'INED, et que vous pouvez trouver notamment différents documents de synthèse de ces travaux coproduits avec des collègues de l'INED et également d'autres collègues enseignants-chercheurs ou chercheurs, et notamment la question du devenir scolaire des enfants d'immigrés, notamment une problématique qui va être évoquée aujourd'hui. Vous pouvez la trouver très facilement en documents de travail de l'INED, sur le site de l'INED. Donc là, peut-être on pourra mettre le lien même sur le site de MINDES si on veut, pour vous faciliter la tâche pour la poursuite de votre réflexion suite à ces conférences. Alors comme c'est la deuxième conférence aujourd'hui, donc on fait un petit peu aussi le tour d'horizon et de cadrage de nos actions et de en gros qui nous sommes pour organiser ces conférences à Poitiers. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé du fait que dans le cadre de la première conférence donnée par Cyril Roussel la semaine dernière, du fait que c'était un partenariat entre l'espace MINDES France et un laboratoire de recherche de l'Université de Poitiers et du CNRS qui s'appelle Migrinter. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que vous ne le savez peut-être pas tous, mais qu'il se trouve que l'Université de Poitiers est le lieu de production d'une revue que vous pouvez voir citée aujourd'hui dans différents articles de presse, la Revue européenne des migrations internationales. En fait, elle est, comme son nom ne l'indique pas, elle est produite à l'Université de Poitiers. Elle a été fondée, rappelez-vous pour ceux qui étaient là la semaine dernière, elle a été fondée par Gilles Simon, qui était présent ici la semaine dernière et qui était également le fondateur de l'équipe de recherche Migrinter. Donc la Revue européenne des migrations internationales est produite à Poitiers dans le cadre des activités de l'université. Elle est soutenue par l'université. Et donc j'ai amené quelques exemplaires pour les personnes qui seraient présentes ici, qui ne connaîtraient pas la revue. Et puis, avec un grand plaisir, elles pourront même être offertes pour si quelqu'un souhaite vraiment avoir ce numéro-là. On sera un plaisir de vous les laisser. Voilà, donc je vous remercie tous d'être très présents parce que pour nous, ça a un sens, parce qu'il se trouve que le hasard du calendrier et un peu le rythme de travail que nous avons nous avait fait complètement oublier que cette semaine était une semaine de vacances. En tout cas, pour l'université, pour reprendre les termes exacts, c'est une semaine de pause pédagogique. Donc nous avions complètement oublié que normalement, il y avait beaucoup moins de monde dans la ville, en tout cas beaucoup moins d'étudiants. Et la salle est pleine aujourd'hui, donc je pense qu'il faut saluer votre présence, surtout la prendre aussi comme le signe de la place de cette question de société qu'elle peut occuper dans vos quotidiens, même en période de vacances. Donc voilà, donc je passe la parole à Emmanuel, j'en suis très heureux de l'accueillir à Poitiers. Donc à toi de...
D'accord, bah merci beaucoup, bonjour à tous. Merci William pour cette invitation. et puis au centre Mendès France, voilà, pour votre accueil. Et j'ai été aussi très, très honorée de faire partie de ce cycle de conférences. Donc, on l'a dit, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille donc depuis maintenant une vingtaine d'années sur cette question de la place des descendants d'immigrés dans la société française. Place que j'ai interrogée à travers de nombreuses thématiques dont je vais essayer de donner un aperçu à travers cette conférence. Alors, comme vous pouvez le constater, par rapport au document qui peut-être a été diffusé, j'ai modifié un tout petit peu le titre pour insister sur la question des parcours plutôt que sur celle de l'intégration. Et c'est pourquoi j'ai appelé les descendants d'immigrés au prisme de leur parcours. Mais cette question de l'intégration, je l'occulte pas. On y reviendra en conclusion. Mais là, ce qui me semblait important pour débuter, c'était de mettre l'accent sur cette question des parcours, également de s'interroger sur cette désignation des descendants d'immigrés. À qui on pense quand on pense des descendants d'immigrés? Est-ce que c'est une population homogène? Est-ce la même chose de dire descendants d'immigrés et jeunes immigrés? À qui avons-nous en tête lorsqu'on entend cette expression? Alors, est-ce que c'est à des jeunes comme ceux qu'on voit sur cette image, qui, dans l'imaginaire, représente des jeunes, on va dire, de banlieue, dans un espace marqué par une certaine forme de violence, de marginalité, de déviance, une dégradation du cadre de vie, avec des jeunes également dans les discours médiatiques qui renvoient à ce qu'on appelle parfois l'identité nationale, ou encore ce type de jeunes. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'ils ne correspondent pas à une réalité, évidemment, mais que le rôle de la sociologie est aussi de nous inviter à nous méfier des stéréotypes et donc, dans ce cas présent, d'une représentation uniforme d'une réalité complexe. Alors le fil rouge de mon intervention va justement porter là-dessus, sur le fait de mettre plutôt en avant la pluralité qu'on devrait déceler derrière cette catégorie de descendants immigrés. Et que pour penser cette pluralité derrière cette nomination de descendants d'immigrés, il nous faut déjà envisager la question de l'ancienneté de l'immigration. Ce n'est pas la même chose d'être arrivé en France il y a moins de 10 ans, ou il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, comme c'est le cas pour les familles notamment d'origine maghrébine. Par rapport aussi à la question des motifs de l'immigration, la raison pour laquelle on vient en France, ce sont des éléments qui vont expliquer tout un tas de choses qui se déroulent ensuite au sein des familles et qui vont expliquer encore une fois, ce que j'appelle donc cette pluralité des parcours. Ça a à voir aussi, évidemment, avec le passé de ces familles dans le pays d'origine. On parle souvent, nous, en termes d'immigrés dans la société française, mais ces familles sont avant tout des émigrés par rapport à leur société d'origine. Et donc, dans ces pays d'origine, elles ont une histoire, elles ont des statuts, elles ont des envies, des aspirations, des projets, des frustrations également. Et c'est de fait de prendre en compte aussi toutes ces dimensions qu'on peut comprendre ensuite un certain nombre de choses concernant leurs propres enfants. Et puis la pluralité aussi à travers les conditions de socialisation que ces familles, auxquelles ces familles se confrontent, rencontrent dans la société dans laquelle elles s'installent. Donc c'est un ensemble de différences au sein de ce groupe qu'il me semble intéressant donc de pouvoir appréhender par les parcours. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai conduit mes recherches. Et ces différences, ce sont elles qui sont, à mon sens, essentielles pour comprendre justement ce qu'on appelle l'intégration. C'est en comprenant cet ensemble de différences que j'ai essayé de dresser comme ça rapidement qu'on peut comprendre ces conditions d'intégration. Alors, deux mots pour vous présenter un peu le plan de mon intervention. Je vais évoquer quelques chiffres pour donner un peu un cadrage. Ensuite, revenir sur cette notion de descendant d'immigrés. Et puis, en gros, à travers cinq grands domaines de la vie sociale, j'axerai mon propos, qui sont donc des domaines dans lesquels de nombreux sociologues ont travaillé. Je mentionnerai par moment les uns et les autres. Je pourrais donner des références pour ceux que ça intéresse plus particulièrement sur un point ou sur un autre, puisque évidemment, je n'ai pas tout travaillé dans le détail, mais c'est quand même des domaines dans lesquels j'ai aussi conduit plusieurs recherches. Alors, quelques chiffres. Toute origine confondue. Donc, quand je dis toute origine confondue, ce sont donc les descendants d'origine maghrébine auxquels on va penser très souvent. C'est à travers eux, notamment, qu'a émergé cette figure du descendant d'immigrés qu'on appelait à l'époque plutôt les enfants de l'immigration dans les années 80. Mais au-delà de ces jeunes, pas ces jeunes, pardon, ces personnes d'origine maghrébine, que ce soit des personnes qui proviennent d'Afrique subsaharienne, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe du Sud, quoi, toute origine confondue, ces descendants d'immigrés représentent près de 7 millions de personnes en France en 2012. C'est la date d'une des dernières enquêtes d'emploi, ce qui représente donc 1% de la population de France. Donc c'est des chiffres qu'on retrouve aussi à travers, donc là William parlait de cette publication qui est donc un document de travail sur le site de l'INED. L'INED et l'INSEE ont conduit une grande enquête, donc quand je dis une grande enquête c'est au plan national avec un échantillon représentatif qui s'appelle l'enquête trajectoire et origine et qui portait donc sur des populations immigrées, donc là aussi. Toute provenance confondue. Bon, après, les personnes sont différenciées par région de provenance, et y compris sur une population de descendants d'immigrés, ce qui est très rare. Bon, on pourrait revenir sur les raisons d'un manque de données en France sur ces questions. Mais donc voilà, donc les éléments statistiques que je vais vous présenter sont issus soit de données de l'INSEE, notamment à travers cette enquête emploi, ou alors des données qui proviennent de cette enquête trajectoire et origine et qui abordent un grand nombre de domaines, la santé, l'école, etc. Et il y a un ouvrage qui va paraître, un ouvrage de synthèse à la rentrée là en janvier 2016, et sinon il y a ces documents de travail. Donc voilà, donc c'est une population qui représente 11% de la population française, et tant en proportion qu'en nombre, la France est dans une situation spécifique, puisque c'est elle, au niveau de l'Europe, qui compte la plus importante population de descendants d'immigrés. Et ces descendants d'origine maghrébine dont je parlais à l'instant représentent, et le groupe minoritaire le plus important, puisqu'il représente le tiers des descendants d'immigrés. À peine plus que ceux d'Europe du Sud, c'est-à-dire Italie, Espagne, Portugal. Alors, je vous le disais, je voulais m'attarder quelques secondes sur ce groupe, cette population qu'on désigne comme étant donc des descendants d'immigrés, pour insister sur une chose qui... Parce que ces descendants d'immigrés, donc je vous le disais tout à l'heure, il y a eu différentes terminologies. Il y a eu notamment la terminologie de seconde génération pour marquer qu'en comparaison aux parents qui pouvaient représenter la première génération, la génération qui a immigré, leurs enfants étaient la seconde génération. Et ce qu'il me semble important de noter, c'est que derrière cette seconde génération, finalement, il n'y a pas une seconde génération homogène, mais il y a plusieurs générations de seconde génération. Plusieurs raisons à cela. Déjà, par rapport à des questions d'âge, les aînés des familles immigrées des années 50 sont des personnes qui aujourd'hui ont plus de 60 ans, tandis que les enfants des familles immigrées dans les années 2000, 2010 ou plus récemment, ce sont des enfants, parfois même très jeunes. Donc on voit bien que ces personnes sont à des stades de leur cycle de vie extrêmement différents, tandis que certains sont scolarisés, d'autres vont être en âge de rentrer sur le marché de l'emploi, quand d'autres vont être en âge de fonder une famille ou sont déjà grands-parents. Donc vous voyez bien que derrière, quand on dit seconde génération, finalement, on a une population qui est extrêmement diverse. En termes de génération familiale aussi, on a des aînés de fratrie dans certains... C'est-à-dire que si on prend une population de même âge, c'est ce que j'ai vu moi sur une enquête dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai appelée « Grandir en banlieue », la population, tous les jeunes que j'ai rencontrés, a été âgés de 20 à 29 ans. Et malgré tout, dans cette population... Donc, dans une même tranche d'âge de 20 à 29 ans, il y avait des gens qui étaient dans des situations en termes de génération familiale extrêmement variées, puisque certains étaient les petits derniers de familles anciennement immigrées, voire des petits-enfants, quand d'autres, au contraire, étaient les aînés de familles qui étaient immigrées depuis plus récemment. Et donc, en termes de dynamique familiale, elles ne vivent pas dans les mêmes configurations, Et puis, il y a la question de la période. On peut avoir un groupe d'individus qui ont 20 ans, mais avoir 20 ans dans les années 80, ce qui est le cas de la génération qui a participé notamment à la marche pour l'égalité et contre le racisme, ou avoir 20 ans dans les années 2015, eh ben, c'est pas la même chose. Or, ces descendants d'immigrés ont pu vivre ces différentes périodes. Et donc, c'est en ce sens-là qu'il me semble important d'avoir en tête qu'ils appartiennent finalement à des générations sociales distinctes et qu'ils sont loin donc de former une population homogène. Il y a évidemment une diversification des origines également parmi ce groupe. Donc, c'est vrai que les médias, très souvent, ça renvoie, c'est pour la raison pour laquelle je vous ai mis ces images en premier, on va avoir en tête plutôt ces groupes d'origine, donc de jeunes d'origine dont les parents proviennent du Maghreb, essentiellement, mais il y a évidemment d'autres origines concernées. Et pendant très longtemps, les enquêtes se sont focalisées sur ceux d'origine européenne, notamment du sud de l'Europe, qui étaient donc comparés à des descendants d'immigrés d'origine maghrébine. Et puis, petit à petit, d'autres groupes ont été étudiés. C'est le cas donc des personnes d'origine turque, d'Afrique subsaharienne ou encore d'Asie du Sud-Est. Mais là, on est sur des populations avec des effectifs beaucoup plus faibles. Donc, certaines fois, on est obligé de faire certaines agrégations lorsqu'on est sur des traitements statistiques. On est sur des effectifs beaucoup plus faibles, et y compris sur des populations beaucoup plus jeunes. Si on regarde pour la population d'origine turque, 96% de ces descendants d'immigrés sont dans la tranche d'âge des 18-35 ans. Donc au-delà, on n'en a quasiment pas, puisque 96% sont dans cette tranche d'âge-là. Ce qui n'est pas vrai pour la population d'origine algérienne, où là, les 18-35 ans représentent les deux tiers des descendants d'immigrés sont dans cette tranche d'âge des 18-35 ans. Donc vous voyez, il y a des variations extrêmement importantes. Et ce qui semble aussi... Donc souvent, ces comparaisons ont été faites dans l'idée... ces groupes ont été retenus dans l'idée de les comparer entre eux et surtout vis-à-vis de ce qu'on appelle le groupe majoritaire, ce que j'ai mis en GM, ce groupe majoritaire, pour comprendre les écarts par rapport donc à ce qu'on appelle la population majoritaire. Mais il me semble qu'on a du coup, en faisant ça, on a souvent négligé les différences qu'il y avait à l'intérieur des groupes. Et il me semble que ces écarts, ces différences intra-groupes sont également importantes à prendre en compte. Alors, j'avais juste oublié une chose aussi, sur la définition aussi que moi, je retiens, parce qu'elle varie un peu pour moi, c'est pas une différence minime, de la définition officielle pour l'INED et l'INSEE dans cette enquête trajectoire origine. Ils définissent les descendants d'immigrés comme étant les personnes nées en France, et uniquement les personnes nées en France, d'au moins un parent immigré. Ce qui veut dire qu'ils incluent les personnes qui peuvent avoir des parents qui forment finalement ce qu'on appelle un couple mixte. Donc il y a un parent immigré et l'autre qui fait partie du groupe majoritaire. Donc ça, c'est la définition de l'INED et l'INSEE, être né en France d'au moins un parent immigré. Pour moi, les descendants d'immigrés, je trouve que plutôt que le lien à la migration, c'est la question du lieu de socialisation qui fait sens pour définir descendants d'immigrés. Et donc moi, je ne retiens que les personnes nées en France ou qui ont pu y arriver jeunes, avant l'âge de 7 ans, pour garantir justement une scolarité dans le cycle d'école primaire, à partir de l'âge de scolarité obligatoire. Et il me semble que c'est cette socialisation dans la société française, à partir du moment où ils rentrent en l'école, qui fait qu'on peut les considérer comme des descendants d'immigrés, et le fait aussi d'avoir deux parents immigrés et non pas au moins un parent immigré. Bon, on pourra y revenir si besoin. Alors, sur ce bref portrait sociodémographique, des choses qui sont probablement déjà bien connues, mais pour rappeler que le niveau de diplôme des parents est faible, puisque si on prend les parents venus d'Afrique, Maghreb compris, près de 74% des parents, donc des trois quarts des parents, n'ont obtenu aucun diplôme. Il y a une concentration très forte dans les emplois d'ouvriers au niveau des pères. Plus de 70% des enfants d'immigrés africains, Maghreb compris, ont des pères ouvriers. Ce taux s'élève jusqu'à 79% pour ceux d'origine maghrébine. Des mères qui sont globalement, qui n'ont pas exercé d'emploi salarié, avec là aussi un fort taux de mères inactives, comme on les nomme, 65%. Des individus qui ont grandi dans des fratries de grande taille, de 4 enfants et plus, pour ceux d'origine maghrébine par exemple, 37% des individus d'origine maghrébine ont grandi dans des fratries de 7 enfants ou plus. Et en termes de cadre de vie, en termes de logement, le plus souvent donc ces personnes elles, si elles ont décohabité, ou leurs parents, s'ils vivent toujours chez leurs parents, sont locataires d'un logement social, les deux tiers d'entre eux. Et c'est une population qui est surreprésentée dans les ZUS. Ils ne sont qu'un quart à vivre en ZUS, ces descendants d'immigrés, contrairement là aussi à des représentations qu'on peut avoir, ils ne sont qu'un quart. Mais en même temps, si on les compare à la population majoritaire, ils sont plus de 7 fois plus nombreux dans les ZUS, y compris lorsqu'on ramène à ce qu'on appelle à origine sociale comparable, c'est-à-dire si on ne prend que les personnes dans la catégorie ouvrière, là encore, on s'aperçoit que c'est des personnes qui sont surreprésentées en ZUS. Donc tout ça, évidemment, sont des indicateurs qui révèlent des conditions de vie spécifiques en termes financiers, en termes de cadre de vie, de conditions de reproduction sociale. Et malgré tout, me semble-t-il, c'est ce que je vous disais en introduction, il me semble important d'insister sur la pluralité, y compris lorsqu'on aborde la question de la banlieue. J'ai pensé, ce qui m'a conduit à envisager les choses de cette manière, c'est ces trois recherches que j'ai conduites au moment où j'étais donc moi-même étudiante en master, ce qu'on appelle master 2 aujourd'hui, et mon travail doctoral, et puis ensuite la première recherche que j'ai conduite en tant que sociologue au CNRS. J'ai toujours cherché un peu à prendre le contre-pied de représentations un peu les plus communes. Et par exemple, le travail que j'avais conduit au cours du Master 2, c'était de m'intéresser justement par rapport à un quartier de banlieue que j'avais un peu commencé à étudier de près l'année précédente. Je m'étais aperçue qu'un certain nombre de ces familles quittaient ce quartier, donc de logements sociaux qui relèvent d'un quartier politique de la ville, etc., pour accéder à la propriété privée, par exemple. Et donc, ce qui allait à l'encontre de cette image donc de population captive, etc. Ce qui m'avait conduit, en faisant ces entretiens, à constater qu'une partie de ces familles avaient des enfants en position, on va dire, d'ascension sociale forte, même en comparaison au père, et ce qui avait conduit donc à ma recherche doctorale qui portait donc sur la mobilité sociale dans l'immigration. Ou le travail que j'ai conduit ensuite sur Grandir en banlieue, l'idée est, pour moi est d'aller un peu contre ces représentations les plus évidentes, même si, encore une fois, j'ai rappelé ces indicateurs parce que ça correspond à une réalité qu'il nous faut avoir en tête. Mais ensuite, il me semble important d'aller voir derrière ce qui relève. Alors, évidemment, la banlieue est le grand domaine par lequel on a pensé cette population. C'est l'image par laquelle, donc, il me semble que les descendants d'immigrés sont souvent pensés. Alors là, j'ai listé quatre figures du jeune de banlieue, la galère, la bande, le business ou le din, pour renvoyer à... Si on prend ces quatre figures, en gros, la grosse majorité des travaux qu'on portait sur les descendants d'immigrés se retrouvent autour de ces quatre figures. Donc, évidemment, c'est des choses importantes. Il y a des travaux, d'ailleurs, absolument intéressants et qui décrivent avec beaucoup de finesse ce qu'il en est de ces quatre figures de jeunes. Qu'on voit bien à travers ça que c'est la question des tensions urbaines qui vont se révéler à travers ce qu'on a appelé les émeutes urbaines. Là, actuellement, on est dans la période des 10 ans par rapport aux émeutes de 2005. Mais il y a eu aussi des révoltes, j'ai envie de dire, pacifiques. La marche pour l'égalité contre le racisme faisait partie, à un moment donné, donc d'une action politique extrêmement forte. Mais il y a eu comme ça donc différents temps dans ces banlieues. Et en même temps, ce qu'on voit à travers ces travaux, c'est un malaise grandissant dans ces quartiers et où, par rapport justement à cette première période qui correspond donc aux années 80, où il semble aujourd'hui que ce que ces jeunes eux-mêmes qui vivent cette vie des cités appellent la vie normale devient de plus en plus quelque chose qui leur paraît de plus en plus difficilement accessible. Comme s'il y avait une frontière plus forte, plus, plus tenace entre justement ce qui constitue le monde des cités et l'extérieur des cités. Donc on voit clairement qu'il y a ce malaise grandissant, mais ces figures, et donc à travers ces figures, ce qui me semble justement intéressant, c'est de voir en quoi elles sont révélatrices, finalement, derrière ce malaise, des transformations majeures que connaît la société française à travers cette question de la ségrégation urbaine, la question de la précarisation, qui est en lien avec la question des mutations économiques, mais aussi la question d'un côté de l'inflation des titres scolaires d'un côté versus le décrochage d'autres jeunes. Donc voilà, ces figures, me semble-t-il, sont intéressantes pour tout ça. Et en même temps, elles doivent nous interroger, puisqu'on voit à travers ces quatre figures que finalement, ce sont des figures masculines. Les jeunes qui sont pensés, qu'on appréhende à travers ces figures, ce sont des jeunes hommes. Alors je dis jeunes parce que bon, le plus souvent, ça va être cette population de... Ça renvoie à cette question de la jeunesse, mais pas que. Mais en tout cas, c'est une figure masculine, stigmatisée, au sens où c'est elle qui va être perçue comme responsable donc, d'un certain nombre de désordres sociaux qui sont pointés. Attendez, excusez-moi. Alors, je vous disais, donc, c'était essentiellement des figures masculines. Et en même temps, on peut penser que tous ces hommes ont des sœurs. Je reviendrai sur cette idée aussi, justement, en focalisant sur ces hommes, on évacue une part de la réalité, qui est notamment la part féminine. Et il y a eu quelques travaux, évidemment. Là, je pense à un ouvrage, je crois qu'il est paru en 2005, qui s'appelle « Les crapuleuses », qui est une sociologie donc, de jeunes filles déviantes dans ces quartiers. Donc, il y a des choses, évidemment, mais ces travaux sont extrêmement rares. Il y en a finalement très peu par rapport à la somme. On a vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines de recherches, d'ouvrages, d'articles sur ces quatre figures, alors qu'on a très peu de choses sur les femmes. Donc, voilà. Là, par exemple, c'est une manière de montrer que, voilà, il y a une autre façon d'approcher cette question, cette réalité des banlieues. Une autre manière de faire, c'est aussi de penser cette question de grandir en banlieue et en partir. Alors déjà, parce que ce qu'il faut aussi rappeler quand même, c'est que l'immense majorité de ces jeunes n'ont jamais pris part à l'une de ces quatre figures. Et qui vivent donc paisiblement la vie de leur quartier. Ce qui ne veut pas dire que l'ensemble de ce qui se passe dans le quartier est paisible et va bien, mais en tout cas, eux ne sont pas forcément, n'ont pas forcément été acteurs et partie prenante de ces figures. Donc ça, c'est déjà un élément. Vivre en banlieue ne signifie pas non plus n'avoir vécu qu'en banlieue. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont pu par le passé, et c'est là où c'est important de prendre en compte justement l'ancienneté de l'immigration. Plus les familles ont émigré il y a longtemps, plus elles avaient de probabilités de vivre dans un autre cadre que la banlieue. Elles ont pu vivre, alors évidemment, c'était en termes de logement, ça pouvait être dans des conditions très difficiles, avec des logements très vétustes, etc. Mais des familles qui ont pu vivre en centre-ville, qui ont pu vivre dans des petites communes, dans des villages, dans des cités ouvrières. Donc évidemment, on voit bien quand on parle de cités ouvrières, on se situe à une autre période. Et en tout cas, pour les familles les plus anciennement installées en France, ce qu'on voit bien lorsqu'on a cette perspective-là un peu historique, c'est que c'est des personnes qui ont grandi dans un tout autre cadre que celui de la banlieue. Et disant cela, ça veut dire qu'ils ont grandi avec d'autres, avec un autre entourage, avec d'autres références. Bon, j'y reviendrai un peu après, mais... cette question de l'entourage me semble essentielle pour comprendre justement avec qui ces personnes partagent leur quotidien, puisque c'est un facteur de socialisation. Et aussi, du coup, disant cela, c'est un indicateur des modes d'accès à la population majoritaire, au fait de ce qu'eux disent vivre avec les Français. Alors, pour les descendants d'immigrés, ils sont Français aussi, mais ça va être cette expression qui était de dire « nous, on a vécu avec les Français » ou au contraire, on n'a pas vécu avec les Français. Et ça, c'est évidemment un élément complètement primordial pour comprendre, dans quel cadre, quoi, comprendre dans quel cadre ces descendants d'immigrés ont grandi, c'est évidemment essentiel pour comprendre à quel type, j'allais dire, de société ils ont eu accès, à quel type de services, à quels sont les liens qu'ils ont pu nouer avec différentes institutions, puisque, évidemment, le lieu dans lequel on vit va déterminer un certain nombre va faciliter l'accès à certaines choses, quand, au contraire, ça va limiter, voire interdire certaines pratiques, certaines possibilités. Donc voilà, donc vivre en banlieue ne signifie pas n'y avoir toujours vécu. On a pu vivre ailleurs avant, ou on peut quitter la banlieue pour vivre dans d'autres espaces par la suite. Ce dont je vous parlais tout à l'heure sur la question de l'accession à la propriété, c'est une possibilité, alors qu'évidemment elle est très minoritaire, mais c'est une voie possible. Et puis, il y a également une diversité des parcours au sein d'un même quartier de banlieue. C'est-à-dire que les gens peuvent vivre dans un même quartier, mais en avoir des pratiques différentes. Avoir des pratiques différentes dans le quartier, avec la ville qui les entoure, et au sein même de la famille, avoir des pratiques extrêmement différentes entre des familles qui vivent plutôt repliées sur la famille, une famille élargie, une communauté d'appartenance, ou des familles, au contraire, qui vont privilégier une ouverture sur leur voisinage et permettre à leurs enfants d'aller chez les voisins, que les enfants des voisins viennent chez eux, etc. Et notamment ces voisins qui forment la population majoritaire, qui n'ont pas cette histoire migratoire, c'est quelque chose évidemment essentiel, qui peut se révéler, qui va en tout cas former des parcours qui se déroulent de manière différente et donc qui donnent à voir des réalités pour ces descendants d'immigrés différentes. Et lorsque j'avais conduit ce travail justement sur grandir en banlieue, l'idée c'était donc de prendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, une population dans une même tranche d'âge, donc de 20-29 ans, qui avaient toutes ces personnes avaient grandi dans un même quartier. Ils avaient été scolarisés dans ce quartier, l'adresse de résidence appartenait à ce quartier. Et moi, j'ai rencontré, une fois arrivé à l'âge adulte, dans cette période de 20-29 ans, pour voir ce qu'ils étaient devenus. Est-ce qu'ils étaient toujours dans le quartier? Est-ce qu'ils en étaient partis? Est-ce qu'ils travaillaient? Est-ce qu'ils étaient en études, etc. Et premier constat, justement, en termes de par rapport à cette question du lieu de résidence, c'était de voir que la moitié avait quitté le quartier. Alors, pour beaucoup, c'était pour vivre à proximité. Souvent, les parents vivaient dans la même commune ou dans une commune limitrophe, mais ils avaient pu soit changer de statut résidentiel, certains étaient devenus propriétaires, d'autres étaient rentrés dans du parc locatif privé, et d'autres avaient pu avoir un parcours résidentiel qui les éloignait. Alors, évidemment, la banlieue parisienne, Marseille. Je me rappelle d'une personne qui était venue vivre à Poitiers, que j'avais revue justement parce que sa mère vivait toujours dans le quartier. On avait fait l'entretien à ce moment-là. Donc voilà, il y avait une dispersion sur le territoire qui ne concernait qu'un petit nombre de personnes. Le plus souvent, les gens étaient restés à proximité. Il n'empêche que quand même la moitié de cette cohorte avait quitté le quartier de résidence. Et on voit bien à travers, moi je voyais bien à travers leur récit, que justement cet univers dans lequel ils vivaient et ce qu'on va appeler donc l'univers de référence, c'est-à-dire ce à quoi ils se réfèrent pour se construire, pour se projeter dans la vie, varie évidemment suivant qu'ils vivent ça comme un enfermement dans le quartier ou qu'ils vivent dans le quartier mais qu'ils ont la possibilité d'en partir par les études, par le travail, etc. ou qu'ils en sont carrément partis. Alors si on aborde à présent la question de l'école, je vais juste essayer de me retrouver dans mes... Voilà. Donc, on constate... Alors là aussi, je vais distinguer souvent pour les hommes et pour les femmes sur cette question, quoi, pour un peu toutes les thématiques, mais bon, notamment pour l'école et l'emploi. J'avais déjà fait aussi pour la banlieue, mais c'est effectivement, ça montre bien que les choses se déroulent différemment déjà à l'intérieur de ce groupe. Quand je vous parlais tout à l'heure de différence, de pluralité, c'est aussi une manière de l'envisager. puisque pour les garçons, il y a un échec scolaire massif. En tout cas, si on prend cet indicateur de sortie des études sans diplôme, puisque ça la concerne 20 à 27% d'entre eux. Là, si on est sur les populations d'origine maghrébine, subsaharienne et turque, on est sur un taux donc, relativement élevé donc de garçons qui sortent du système scolaire sans diplôme. Alors, ce résultat ne s'explique pas uniquement par les caractéristiques familiales, donc le fait que ce soit des populations issues des milieux populaires, puisque les filles réussissent mieux. Or, comme je vous l'ai dit, bah, souvent, ils font partie des mêmes familles. Les filles réussissent mieux puisqu'elles sont moins nombreuses à être sorties donc, du système scolaire sans... elles sont moins nombreuses à ne pas avoir eu... Ma phrase est même bizarrement construite, vous comprenez ce que je veux dire, ne pas avoir eu de diplôme. Et elles sont aussi nettement plus souvent diplômées du cycle supérieur que ne sont les garçons. Alors, qu'est-ce qui explique un tel écart? Il y a évidemment la question de ce qu'on va appeler la discrimination, le fait de subir un traitement différencié, notamment par les équipes éducatives. C'est ce que les jeunes vont mettre en avant comme explication, notamment. Les hommes, alors je ne parle pas des situations de difficultés, de personnes qui sont en situation d'échec scolaire, mais de personnes qui ont une scolarité avec de bons résultats. Souvent, ce qui est ressorti de ces entretiens, c'est que les hommes disaient qu'il fallait vraiment être excellent, avoir vraiment de très bons résultats pour qu'on ne nous propose pas la filière BEP. Sinon, on était systématiquement, alors eux, le liaient à leur origine, l'origine ethnique, mais on peut aussi penser l'origine populaire, on nous proposait, voire on nous orientait sur ces filières-là. Pour les filles, le disent, mais c'est moins net. Pour les garçons, il y a vraiment cet élément qui ressort très, très fortement. Et puis, on peut aussi penser que ce qui explique ces différences, c'est au sein de l'espace domestique, la socialisation sexuellement différenciée entre les filles et les garçons, dont les filles vont tirer avantage. Alors, c'est parce qu'il y a une éducation familiale plus contraignante pour elles, moins permissive en comparaison à leurs frères. Mais aussi parce que les filles, et ça c'est vrai en population générale, vont être perçues comme étant plus scolaires, en ayant un comportement qui correspond plus aux normes valorisées par l'institution scolaire, qui voit aussi dans l'école un levier d'émancipation, donc il y a un rapport aussi positif à l'école. Et elles ont dû aussi, ça, il me semble-t-il que c'est un élément qui est moins évoqué, elles ont dû aussi beaucoup venir en aide à leurs parents pour accomplir tout un tas de démarches, faire des papiers, les accompagner dans tout un tas de choses. Et qu'à l'occasion de tout ce travail qu'elles ont conduit à travers ces accompagnements, elles ont aussi acquis des savoirs, des savoir-faire, des compétences qui sont finalement des dispositions qui sont convertibles dans le domaine scolaire. Qui sont converties dans le domaine scolaire, puisqu'elles ont dû apprendre à se débrouiller avec les papiers, à se présenter, à faire avec les différentes institutions. Elles ont gagné en maturité, un sens de l'organisation, du travail, tout un ensemble de choses dont on voit bien que c'est des choses qui peuvent être directement transposables pour le travail scolaire. Donc voilà, donc c'est des éléments qui peuvent notamment expliquer ces écarts importants. Par contre, lorsqu'on est au niveau du cycle secondaire et notamment face à l'obtention d'un baccalauréat, lorsqu'on compare des personnes à ce qu'on appelle à origine sociale comparable, c'est-à-dire qu'on se limite aux personnes dont les pères appartiennent aux classes populaires, donc généralement les emplois d'ouvriers, d'employés, les différences s'annulent, c'est-à-dire qu'on a des enfants d'immigrés qui réussissent aussi bien, parfois mieux, notamment par rapport à l'obtention du baccalauréat. Alors là aussi, qu'est-ce qui peut expliquer ces différences? C'est que ce sont des familles, c'est des choses que les travaux sociologiques ont permis de clairement mettre en évidence, mais qu'il me semble-t-il, on sous-estime vraiment. Si on avait appréhendé les familles immigrées en montrant justement toute la mobilisation dont elles ont été capables, tout le, la manière dont elles ont poussé leurs enfants à réussir, si on avait eu cette représentation-là, peut-être qu'on aurait vu ces familles et les choses seraient passées un peu dans... Là, on a plutôt, au contraire, mis l'accent sur le fait que ce soit des familles illettrées, des missionnaires, etc. Or, ce qu'on voit, les travaux sociologiques qui nous permettent de voir, ce sont des familles qui se révèlent globalement plus ambitieuses que les autres familles, à milieu donc de socio-professionnels comparables. Ce sont des familles qui sont plus ambitieuses, qui ont des attentes vis-à-vis de l'école supérieures en moyenne. Et ça, c'est en lien avec justement leur propre parcours migratoire. Très souvent, ce qui était attendu de la migration, c'était justement de vivre mieux pour soi, mais de vivre mieux pour ses enfants. Et aussi donc d'envisager à travers ce vivre mieux la possibilité d'avoir que ses enfants soient scolarisés, notamment quand ses parents n'avaient pas pu l'être. Donc c'était d'offrir un cadre qui permette à leurs enfants d'être scolarisés, d'assurer donc l'avenir de leurs enfants, d'avoir eux-mêmes, ses parents, des fois subi très fortement un sentiment d'injustice, de frustration de n'avoir pas pu être scolarisés, et donc de véritablement valoriser, favoriser la scolarité de leurs propres enfants. Et donc cette idée que le projet migratoire est en lien avec un projet d'ascension sociale explique cette attente et cette ambition et ces aspirations des parents vis-à-vis de l'institution scolaire. C'est aussi la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que c'était important de ne pas se limiter à la position occupée par ces familles en France, et notamment justement à ces critères que j'ai mis en avant, le fait de mère inactive, de père ouvrier, etc. C'est des familles qui aussi, dans leur pays d'origine, avaient, je vous le disais en introduction, peut-être aussi pour certains déjà... pouvaient être lettrés dans leur langue d'origine, pouvaient avoir un certain nombre d'aspirations, etc. Je n'y reviens pas. Donc des ambitions très fortes de la part des parents, et puis également, parce qu'en même temps, donc, elles avaient ces aspirations fortes, et en même temps, on n'avait pas toujours les moyens de leur politique, si on peut dire. Ensuite, il y avait évidemment des ressources, le fait de mal connaître l'institution scolaire, comment ça fonctionne, donc pour les orientations, pour savoir sur qui on peut s'appuyer, pour connaître les différentes filières, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement complexe, on est tous confrontés à ça en tant que parents. Donc effectivement, quand en plus on n'a pas été scolarisé dans ce système scolaire, tout ça peut paraître évidemment extrêmement complexe. Donc c'est aussi la raison pour laquelle les parents n'ont pas toujours ensuite pu aider au mieux leurs enfants, mais il y avait cette ambition. Et ce que l'on remarque, et c'est notamment des choses qu'on a pu étudier là-dedans avec, dans ce document avec Laure Moguerou, c'est des familles qui, dans lesquelles on peut observer une aide entre frères et sœurs qui est très importante, qui est en moyenne nettement supérieure à ce qu'on peut observer dans les familles du groupe majoritaire. Il y a une aide entre frères et sœurs. Il y a également le fait que les aînés vont se sentir investis d'un rôle vis-à-vis des plus jeunes, pour qui ils peuvent représenter un modèle. Les derniers enfants ou les plus jeunes peuvent aussi tirer profit des erreurs faites par les aînés. Les aînés, une fois qu'ils sont rentrés sur le marché du travail, on voit que c'est des familles dans lesquelles il y aura une solidarité, y compris financière, avec donc des aînés, y compris s'ils ont quitté le logement familial, vont pouvoir donner par des ressources, des moyens financiers pour aider la scolarité des plus jeunes. Donc voilà, un système d'entraide, de solidarité au sein même des fratries. Et puis, un sentiment de reconnaissance filiale très fort. Les enfants ne voulant pas décevoir, ils se doivent de réussir pour notamment par rapport aux sacrifices vécus, subis par les parents à travers l'exil, tout un tas de souffrances que la situation d'immigrés peut faire vivre dans une société comme la nôtre. Ces enfants, et notamment les aînés, que ce soit des filles ou des garçons, vont se sentir dépositaires de ces attentes parentales. Alors, si on aborde maintenant la question de l'emploi, donc le taux de chômage, je pense pense que voilà, c'est des données qu'on a plus facilement en tête. On nous rappelle donc bon, le taux de chômage est important, mais celui des descendants d'immigrés est le double en général. Alors ça dépend des origines, mais pour celles qui nous préoccupent ici, que ce soit pour les hommes d'origine maghrébine, turque ou subsaharienne, qui correspondent donc au groupe minoritaire qu'on appelle visible, les taux de chômage sont de l'ordre de 20-22%. Donc on est sur des taux extrêmement élevés. On voit également qu'ils sont moins bien insérés sur le marché de l'emploi. Une enquête comme l'enquête du CEREC qui évalue la situation 3 ans après la sortie de l'école nous permet de voir que 3 ans après la sortie de l'école, les descendants d'immigrés donc africains, Maghreb compris, sont 61% d'entre eux à être en emploi en CDI ou fonctionnaire, quand ça concerne 82% des personnes dont les deux parents sont nés en France. Donc ils sont moins bien insérés, ils ont une situation également professionnelle marquée par la précarité, qu'il s'agisse du fait d'avoir des emplois en intérim, CDD, ils sont surreprésentés dans ces situations de précarité, avec une aggravation pour les plus jeunes d'entre eux et les habitants des US, qui sont aussi du coup ceux dont on a vu qui sont les plus nombreux à être sans diplôme. Donc, du coup, il y a une situation de surchômage et qui va être en particulier concentrée sur certaines populations. Et en même temps, quand je parle de surchômage, c'est-à-dire que lorsqu'on prend en compte, là c'est des exploitations statistiques qui nous permettent de le dire, un ensemble de facteurs de risque de chômage qui permet de, où on mobilise tout un tas de variables pour essayer de voir ce qui pourrait expliquer, il n'empêche que lorsqu'on a contrôlé par l'âge, le sexe, le type de diplôme, la spécialité du diplôme, la catégorie socio-professionnelle, etc., malgré tout, il y a une situation de surchômage qui reste inexpliqué, et donc ce qui renvoie à ce que l'on commence maintenant à bien connaître, qui renvoie donc à la question des discriminations. Alors, qui est la question des discriminations d'une part, et puis la question des effets de réseau, parce que ça, on ne peut pas l'évaluer statistiquement. Or, on sait que pour trouver de l'emploi, le mode d'accès à l'emploi peut passer par justement des réseaux qui vont être plus ou moins efficaces. Et ça va souvent être des familles qui, par leur propre situation professionnelle, vont moins être en mesure de favoriser des réseaux, ces réseaux-là pour leurs enfants. En tout cas, entre cette question des réseaux et des discriminations, c'est autour de ça, de ces deux pistes, que l'on peut comprendre ce surchômage des jeunes. Alors, en comparaison à leurs pairs, oui, bien entendu, il y a une mobilité sociale ascendante, puisqu'ils sont moins souvent ouvriers, et lorsqu'ils sont ouvriers, ils sont plus souvent qualifiés que ne l'étaient leurs pairs. Mais ce n'est pas à leurs pairs qu'il faut les comparer, mais bien aux autres personnes du même âge, puisque eux, comme les enfants du groupe majoritaire ont été scolarisés et socialisés dans la société française. Et donc là, on voit qu'à CS comparable du père, donc à catégorie sous-professionnelle du père, ces descendants d'immigrés atteignent moins souvent les emplois de profession intermédiaire et de cadre supérieur. Ce qu'on appelle, on n'appelle plus cadre supérieur, maintenant c'est les cadres profession intellectuelle supérieure. Donc dans la nomenclature de l'INSEE. Alors que pour des descendants d'immigrés d'origine européenne, on voit qu'ils atteignent à peu près dans les mêmes proportions que ceux du groupe majoritaire. Donc il y a bien, outre une précarité massive, on l'a vu à travers le chômage et les emplois précaires, on assiste donc à une forme de reproduction sociale malgré tout. Alors, si on regarde du côté des femmes plus particulièrement, ce que j'ai dit juste avant, la question des catégories sous-professionnelles, c'est valable pour les hommes et les femmes. Là, je reviens aux femmes par rapport à la question de l'emploi. Mais avant cela, pour dire que, par contre, en comparaison à la génération de leur mère, ces femmes sont actives dans des proportions comparables à celles du groupe majoritaire. Donc ça, c'est vraiment une rupture radicale par rapport à la génération d'avant. Par contre, et par rapport à leur homologue masculin, donc par rapport aux autres, par rapport aux hommes de même origine, leur taux de chômage est toujours égal ou inférieur à celui des hommes, mais il est supérieur à celui des femmes du groupe majoritaire. Donc, comparées à ces hommes de même origine, elles ont aussi une probabilité plus forte de devenir cadres. Donc là, ça renvoie à leur meilleure réussite scolaire, hein, dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'elles soient plus souvent dans le cycle supérieur, etc., des diplômes du cycle supérieur. Mais en comparaison à la population majoritaire, elles ont moins de probabilité de devenir cadres. Donc, c'est vrai qu'on a souvent cette image, une image assez répandue de femmes qui réussissent mieux. Donc, elles réussissent mieux, mais en comparaison à leur homologue masculin. Lorsqu'on les compare à la population majoritaire, ce résultat n'est plus vrai. Donc dans ce groupe de descendants d'immigrés qui contient à la fois un nombre important d'hommes sans diplôme et de femmes diplômées, on voit bien, me semble-t-il, que les discriminations ethniques et sexistes se superposent et se renforcent sur le marché de l'emploi pour ces femmes diplômées et pour les hommes sans diplôme. Donc là, ce qui montre aussi que ces discriminations sont souvent complexes à aborder, et qu'elles peuvent être combinatoires. On a besoin là aussi de considérer plusieurs facteurs. Et c'est pour ça que je parle là, dans ce cas de figure, de discrimination sexiste et ethnique. Il me reste un quart d'heure, quoi, ça ? Alors, si on aborde la question de l'entrée dans la vie adulte, donc là, on est plutôt sur une population de jeunes descendants d'immigrés, on voit que globalement, il y a un départ plus tardif de chez les parents. Au-delà de 25 ans, ils sont encore 21% à vivre chez leurs parents, alors que cela ne concerne plus que 9% de la population majoritaire. Donc, un départ plus tardif. Des descendants d'immigrés également moins souvent en couple, donc les deux vont de pair, hein, c'est deux éléments qui se comprennent ensemble. Puisque dans cette tranche d'âge des 18-35 ans, ils sont à peine 50% à se déclarer en couple ou dans une relation stable, que les couples soient cohabitants ou non, quand dans le groupe témoin, cela concerne 67% des individus. Et lorsqu'ils sont en couple, ils sont plus souvent mariés. Donc ce qui veut dire par là, si j'aborde ces quelques éléments statistiques, c'est pour montrer que finalement leur expérience de ce passage à la vie adulte, c'est des expériences juvéniles, puisque avant même le passage à la vie adulte, il y a toutes ces expériences qui antérieures, qui conduisent justement à cette entrée dans la vie adulte, vont se réaliser sur un mode différent, et notamment ce que les démographes appellent la période de jeunesse sexuelle, qui est la période dans laquelle, aujourd'hui, la sexualité est déconnectée du projet conjugal. Pendant très longtemps, les deux étaient liés. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déconnecté, et qu'on voit très clairement sur une population, quoi, au niveau de la jeunesse. Et on voit que justement, dans cette population, ça se passe en des termes un peu différents. Ils sont plutôt sur un mode d'installation, quoi, un mode d'entrée dans la vie adulte qu'on désigne comme étant un mode d'installation, où il faut à la fois obtenir un emploi, un logement, pour entrer dans la vie de couple. Et cette vie de couple est souvent liée également au mariage. On voit dans le groupe des descendants d'immigrés d'origine maghrébine que 64% d'entre eux, donc près des deux tiers, sont mariés avant ou en même temps que débute la cohabitation conjugale. Alors quand on dit avant ou en même temps que débute la cohabitation conjugale, l'enquête Théo nous permet uniquement de savoir si c'est dans le même mois. On n'a pas d'informations si c'est le même jour, la même semaine, etc. C'est dans le même mois. Mais en tout cas, c'est quand même un élément important que pour 64% d'entre eux, ces deux événements sont concomitants, alors que dans la population majoritaire, cette situation ne concerne que 13%. Donc on voit bien que ce passage se déroule donc en des termes un peu indifférents. Et c'est a fortiori plus marqué pour les femmes. Là aussi, on a un certain nombre de différences. Alors, ce qui peut expliquer ces écarts, il y a des facteurs d'ordre sociaux, donc des facteurs exogènes à ces personnes qui subissent, j'ai envie de dire, qui leur viennent de l'extérieur, qui est d'une part la situation, on l'a vu, plus défavorable à l'égard de l'emploi. Quand on est précaire, on a moins de possibilités de se projeter dans l'avenir, de fonder une famille, donc de se mettre en couple, et du coup d'avoir aussi les moyens, tout simplement déjà financiers, de prendre un logement. Donc il y a la situation à l'égard de l'emploi qui est un élément d'explication. Et puis la difficulté à trouver un logement autonome pour ces raisons financières, mais aussi en raison des pratiques de discrimination. Donc ça, c'est des facteurs qui peuvent expliquer ce passage, pourquoi ce passage se déroule en des termes un peu différents. Et puis, il y a des facteurs aussi endogènes qui sont liés à l'univers familial, puisque globalement, dans ces familles, demeure l'idée qu'il n'est pas bien de se mettre en couple, comme ça, de vivre de manière, ce qu'on appelle le concubinage. Il y a une forte réprobation à l'égard donc, de cette manière de faire couple. Les parents préfèrent que leurs enfants se marient, et c'est une fois mariés qu'ils peuvent partir du logement familial. Il y a également, globalement, un contrôle de la sexualité des femmes jusqu'à leur mariage qui est souvent plus important. Et puis cette idée de respect du parent, qu'il y a des pratiques qui se font, d'autres qui ne se font pas. Et donc c'est cet ensemble de choses qui parfois sont intériorisées, d'autres fois qui sont pas quoi, les personnes aimeraient bien faire différemment, mais il y a une forme d'acceptation de ces comportements jugés respectables. Alors, ça nous amène à la question donc, de la formation du couple, et notamment donc, de ce qu'on a appelé, nous, avec Béate Collet, avec cette collègue, pendant 10 ans, on a conduit plusieurs recherches ensemble, ce qui a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle « Couple d'ici, parents d'ailleurs », qui portait justement ce qui nous intéressait de voir, en partant donc, de population de descendants d'immigrés, était de s'interroger sur les options conjugales qui se présentaient à eux, qui étaient donc soit de se vivre en couple avec une autre personne également descendant d'immigrés comme eux, une personne qui était immigrée, généralement du même pays d'origine que les parents, ou une personne du groupe majoritaire, ce qu'on appelle les couples mixtes. Et donc, en gros, on va dire qu'il y a donc trois options conjugales possibles. Et à travers ce travail, on a vu que finalement, c'est bien la norme d'endogamie qui continue à être prégnante. Alors, ça ne veut pas dire que tous vont respecter cette norme d'endogamie. Donc, la norme d'endogamie, c'est le fait de prendre un conjoint parmi le groupe d'appartenance. Mais en tout cas, c'est la norme qui est transmise. C'est ce que les parents attendent. Après, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se fait, mais en tout cas, c'est la norme qui va être transmise dans ces familles. Et donc, ils restent du coup tributaires de cette norme matrimoniale, même si une partie d'entre eux vont s'y soustraire. Donc, je vous disais, une norme transmise par les parents. Et ce qui est intéressant à travers cette norme d'endogamie, c'est de voir aussi à quel point elle est à géométrie variable. Initialement, on parlait d'endogamie lignagère, c'est-à-dire c'est le fait de prendre un conjoint dans le lignage. Alors le lignage pouvait être un peu élargi, des fois ça renvoyait jusqu'au pays, au village d'origine, pas forcément quelqu'un de la famille, ça pouvait être le village, mais c'était donc le fait que les mariages étaient arrangés dans ce cadre-là. Et puis l'endogamie a pu être pensée par rapport à une même culture. C'est par exemple, alors ça, qui peut être la culture kabyle, la même culture nationale, donc là, cette fois, c'est le pays, le fait d'être d'origine, par exemple, algérienne, ou de partager une même culture, cette fois, de point de vue plus large, au niveau du Maghreb. Et de plus en plus, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière, quelques décennies en arrière, mais aujourd'hui, quelqu'un d'origine tunisienne qui a un projet de se marier avec quelqu'un d'origine marocaine, il y a des parents qui peuvent s'y opposer en percevant ça comme une union mixte, mais pour beaucoup de parents, ça apparaît finalement comme un mariage endogame. Et les jeunes vont aller plus loin dans cette réinterprétation de l'endogamie, où pour certains, le fait de partager la même religion suffit à assurer cette proximité. Et donc, si je reste sur cet exemple donc d'une personne d'origine tunisienne qui veut présenter à ses parents son ami d'origine turque, pour eux, ils partagent la même religion et donc ça rentre dans cette norme endogamique. Mais là, par contre, les parents, très souvent, peuvent s'y opposer, mais en tout cas, vont pas considérer ça comme un mariage endogame. Alors, en tout cas, avec la définition que nous, on donne des descendants d'immigrés, on voit que ces unions endogames restent majoritaires, puisque c'est le cas pour 61% de ces descendants d'immigrés. Alors, j'ai aussi collaboré là avec des collègues de l'INED à un papier sur ces questions conjugales, le choix du conjoint, où là, la définition est différente, puisque je vous l'ai dit, avec l'INED, c'est là, une définition de au moins un parent immigré. Et du coup, ça fait inverser ce résultat entre endogame, choix endogame, choix mixte, puisque nous, on a donc une majorité de choix endogame avec notre définition, mais le fait d'inclure ceux qui déclarent avoir au moins un parent immigré, donc des enfants de couples mixtes, ça veut dire qu'eux aussi vont plus souvent former des couples mixtes. Et donc là, on a plutôt un taux d'union mixte plus fort avec cette autre définition. Et en même temps, ce qui nous semble vraiment important, qu'on a voulu mettre en avant avec Béate Collet, c'est que ce choix fait, même s'il est endogame, il y a un travail de réinterprétation qui se fait. C'est ce qu'on a appelé, on a donc une typologie de l'entre-soi conjugal, et notamment à travers ce qu'on a appelé donc l'entre-soi négocié. Il y a une réinterprétation de cette norme, puisque ces jeunes ont été socialisés en France, ont grandi dans la société française, qui va diffuser d'autres normes, notamment le fait de se choisir, de s'aimer, de se fréquenter avant de décider de vivre en couple. Et c'est des jeunes qui aussi vont faire avec ces éléments, avec ces normes. Et donc leur choix résulte à la fois de ce que les parents attendent, pour certains en tout cas, mais aussi de leur propre aspiration personnelle. Et c'est pour ça ce qu'on a appelé donc l'entre-soi négocié. C'est pas une remise en cause de la norme endogamique, puisqu'ils vont finalement rencontrer quelqu'un qui a la même origine. Mais à la différence de ce qui se passait pour la génération antérieure, ils ont choisi cette personne. C'est parce qu'ils s'aiment, qu'ils ont donc des sentiments amoureux, qu'ils sont fréquentés, qu'ils ont testé leur projet conjugal, que finalement le mariage va pouvoir être célébré. Mais par contre, donc on voit bien que c'est une réinterprétation finalement de la norme, mais par contre, ils vont, et c'est en ce sens-là que, me semble-t-il, on ne peut pas considérer ça comme le maintien d'une tradition, le fait qu'on continue à avoir un pourcentage élevé d'union endogame, on ne peut pas le considérer, ce n'est pas équivalent à quelque chose qui pourrait être interprété comme le maintien d'une tradition, du fait de ce travail de réinterprétation, puisque ces couples vont nous dire aussi que ce qu'ils attendent, c'est une égalité entre les conjoints, c'est l'épanouissement individuel, quoi, tout un ensemble de normes qui sont les normes aujourd'hui de la société majoritaire. Par contre, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que d'un bout à l'autre de la chaîne générationnelle, c'est un choix qui va faciliter les choses et par rapport à leurs parents et par rapport à leurs propres enfants. Et du coup, pour s'inscrire là-dedans, ils vont aussi, à un moment donné, pour que les parents valident ce choix, reprendre un certain nombre de rites, comme le rite de la demande en mariage. Mais finalement, une fois que cette demande en mariage est faite, finalement, ça les autorise à vivre comme les autres jeunes, puisque justement, ça va leur autoriser de pouvoir sortir avec leurs copains, parce que justement, ce choix aura été d'une certaine manière validé. Donc voilà, il nous semble que cette idée de négociation, de réinterprétation nous paraît permettre de voir les choses un peu différentes. Alors là, je vais essayer de passer plus vite, parce que j'aurais voulu quand même aborder aussi la question de la citoyenneté. Bon, pour dire voilà, que globalement, on trouve qu'il y a eu des mutations très profondes au sein de ces familles. Quand tout à l'heure, je parlais de l'activité des filles, qui aujourd'hui, le taux d'activité de ces femmes est équivalent. Lorsque moi, j'ai travaillé sur... donc c'était dans les années 90, par rapport à cette population qui était en ascension sociale, les femmes disaient, qui appartenaient plutôt à l'époque à une génération de quarantenaires, qu'elles avaient dû se battre dans leur famille pour imposer le fait de faire des études, de faire des études longues, de travailler, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a un changement radical. Aujourd'hui, l'activité de ces femmes va de soi à l'intérieur de ces familles. La pratique du mariage arrangé a aussi largement disparu. Donc voilà, donc... Même si on constate le maintien de ce qu'on va appeler une morale plus conservatrice, notamment à l'égard de la question de l'émancipation sexuelle, de l'homosexualité, pour autant, il nous semble qu'on ne peut pas parler de noyau dur culturel comme l'a fait, par exemple, Dominique Schnapper, puisque lorsqu'on regarde, du fait, justement, si on compare... si on prend en exemple la génération des baby-boomers, qui a été la première dans laquelle il y a eu une très forte scolarité des femmes, et comment cette scolarité des femmes a ensuite complètement contribué à bouleverser un certain nombre de schémas familiaux, on peut penser que là aussi, la scolarité des femmes, il y a un processus analogue qui est en train de se produire au sein des familles immigrées, cette scolarité bouleversant les rapports sociaux de sexe. Et du coup, les modalités de la vie à deux, tout ce qu'on appelle donc les transformations de la vie intime, pour reprendre les travaux d'Anthony Giddens. Donc, il y a un peu un double mouvement. D'une part, un alignement donc, sur des dynamiques familiales du groupe majoritaire, avec cette idée donc, d'égalité, d'épanouissement individuel, etc. Et en même temps, justement, dans certains lieux, un durcissement parfois aussi des rapports de genre en lien avec cette question de la radicalisation et de la ségrégation résidentielle. Alors, je passe peut-être sur les pratiques transnationales, c'était juste pour dire que voilà, c'était aussi quelque chose qui a beaucoup été étudié sur la population des immigrés, où on reconnaissait que les immigrés continuaient à se penser dans un espace transnational entre leur pays d'origine et la société française. Mais c'est aussi des pratiques qu'on peut observer au sujet des descendants d'immigrés. Moi, j'ai travaillé un peu ces questions à travers la question de l'investissement économique dans le pays d'origine des parents. Mais on peut le voir aussi à travers des travaux d'une jeune collègue sur les vacances au bled. Bon, c'est le titre de sa thèse. Voilà, donc ces descendants d'immigrés sont aussi dans ces pratiques transnationales et elles sont importantes pour penser la société plurielle, et quelque chose sur lequel je voulais revenir en conclusion. Alors, si vous me laissez encore 5 minutes, ou un peu moins, je vais essayer d'être... alors, en termes de citoyenneté et politique... Donc, ce sont des personnes qui sont de nationalité française, très majoritairement. Plus de 90% d'entre eux sont de nationalité française. Toutes les enquêtes, depuis la première enquête d'Anne Muxel dans les années 80 jusqu'à des enquêtes très récentes, ces dernières années, montrent un fort intérêt. Donc, quand je dis fort intérêt, c'est un intérêt supérieur pour les questions politiques que des jeunes au même âge du groupe majoritaire, donc un fort intérêt pour les questions politiques, avec un positionnement à gauche, là aussi, en moyenne, plus élevé. Mais en même temps, à la différence donc, du groupe majoritaire, une moindre participation politique, en termes qu'on peut évaluer en termes d'inscription et de vote à différentes élections. Ça, c'est des éléments qui ont été constants sur ces 30 dernières années. Alors, donc, on peut se demander si c'est un effet du lieu de résidence, puisqu'on sait, ça avait été rappelé juste au moment des émeutes, qu'il y avait une plus forte abstention dans ces quartiers. Donc, est-ce que c'est un effet du lieu de résidence ou des caractéristiques sociales des habitants qui habitent dans ces zones résidentielles, puisqu'on l'a vu, ils sont plus souvent moins diplômés, plus souvent précaires, donc un plus fort sentiment d'exclusion. Et on sait bien qu'il y a un lien entre ce sentiment d'exclusion et la participation politique. Alors, si ça me conduit à aborder aussi rapidement la question de l'identité et du sentiment d'appartenance, si je raisonne toute origine confondue, 93% des descendants d'immigrés se sentent français. Par contre, lorsqu'on est sur le groupe des descendants d'immigrés là, sur lesquels je me suis particulièrement intéressée jusqu'à présent, ce taux est inférieur. Et il est d'autant plus inférieur qu'il y a la question de des minorités visibles qui apparaît. Ils sont là aussi sur cette idée de se sentir chez eux en France, parce que dans l'enquête Théo, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Vous sentez-vous français? Vous sentez-vous chez vous en France? Pensez-vous être vu comme français, etc. Donc il y a tout un tas de questions. Et on voit bien qu'en comparaison aux autres descendants d'immigrés, donc d'autres origines, ils se sentent toujours moins français, ils se sentent donc toujours plus vus comme étrangers, etc. Cette question de la visibilité de l'altérité provoque ce sentiment de, nous semble-t-il, et il y a notamment Patrick Simon avec Vincent Tibéri qui a beaucoup travaillé sur ces questions, ce sentiment de ne pas pouvoir se déclarer chez soi en France, se sentir français, parce que dans le regard des autres, ce sont des personnes à qui va être renvoyée justement une altérité qui fait qu'eux-mêmes vont avoir du mal à se déclarer français ou chez eux en France. Et donc on sait bien que l'identité, c'est quelque chose qui se construit dans un rapport aux autres. C'est une question d'interaction. Et quand du coup, d'où l'importance de ce regard d'autrui pour pouvoir se penser et se vivre comme français. Si ce regard assigne une identité autre et renvoie à des origines, on comprend justement pourquoi il y a un tel écart sur ce type de questions. Et ces deux collègues que je cite, Awissi et Gallou, montrent bien là, au sujet d'une population de descendants d'immigrés subsahariens, comment ces personnes se ressentent français, se vivent comme français, et en même temps vivent une identité africaine assignée. Ils sont dans ce double sentiment du fait, encore une fois, de ce regard extérieur. Et donc, on voit bien que ça signifie que les individus se perçoivent à travers également ce regard. Là aussi, si je fais encore un petit retour sur ce qui s'est passé dans les banlieues il y a 10 ans, quand on se remémore ce qui a été entendu et compris par les plus hauts responsables politiques, en montrant à quel point justement il les reconnaissait pas comme des Français, ce regard, encore une fois, est évidemment extrêmement important et explique cette difficulté à se sentir chez soi et à se sentir français. Alors, ce qui m'amène à aborder aussi la question de la religion, pour dire que par rapport justement à la génération des années 80, la génération qui a notamment été perçue à travers notamment la marche, où il y a eu donc à ce moment-là beaucoup de travaux qui disaient qu'on assisterait à une perte de la religiosité au fil du temps, que par rapport à ce qui était perçu à ce moment-là, par rapport à l'engagement, au type d'engagement associatif qu'avaient ces jeunes à cette époque, beaucoup de travaux ont prédit un peu cette question donc de la perte de religiosité. En fin de compte, c'est un peu l'inverse qui s'est produit, notamment dans certains quartiers, où justement, du fait de cet échec politique retentissant suite à la marche, il y a eu évidemment des choses qui ont été gagnées par cette marche, mais ça n'a pas été à la hauteur des espoirs que cette marche avait suscité. Et il y a eu dans certains quartiers, justement, certaines associations qui... religieuses qui, au contraire, se sont développées dans un peu dans la continuité. Bon, là, il faudrait faire référence à d'autres travaux. C'est pas des choses sur lesquelles moi j'ai travaillé directement. Mais en tout cas, moi, ce qui me semble important pour, parce que c'est par contre des choses que j'ai pu constater, c'est quand même que globalement, on est donc dans un double mouvement, avec d'une part un mouvement de sécularisation, c'est-à-dire un islam qui est pratiqué dans le cadre de la vie privée, avec une conception laïque, et qui, semble-t-il, est le mouvement dominant, largement majoritaire. Et je renvoie à des travaux aussi de Nancy Venel, de Nathalie Capo qui ont travaillé sur ces questions. Mais en même temps, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un phénomène de réislamisation, et qui en même temps interroge aujourd'hui les politistes, les sociologues qui travaillent sur cette question, puisque cet accroissement de la religiosité est à rebours des tendances générales, puisqu'elle concerne plutôt les plus jeunes, quand généralement cette question concerne plutôt les populations âgées, ce sont plutôt les jeunes, les plus jeunes d'entre eux qui sont concernés, et les hommes qui vont s'affirmer les plus pratiquants, en tout cas dans les pratiques plus fondamentalistes par rapport à ce mouvement, encore une fois, qu'on appelle de réislamisation. En même temps, ça nous fait penser que ce sont bien eux les plus stigmatisés. Donc là aussi, on peut se poser la question s'il n'y a pas des liens entre tout ça. Et en tout cas, il me semble que cette question doit surtout être abordée aussi par rapport à une dimension géopolitique, par rapport à la nouvelle donne mondiale. Ce qui m'amène en conclusion à dire que dans ce monde justement de plus en plus multiculturel, globalisé, comment s'étonner que de la part de ces descendants d'immigrés d'une demande de reconnaissance identitaire plurielle qui passe par l'affirmation religieuse pour une partie, par les références transnationales pour d'autres. Mais en tout cas, il me semble que là aussi, pour eux aussi, on doit penser cette société plurielle, cette société multiculturelle et cette identité qui va être multiple et qui va se décliner de différentes manières. Alors, c'est pour ça aussi que la question de l'intégration me semble pas toujours la bonne manière pour, en tout cas telle qu'elle est pensée notamment par les politiques et reprise dans les discours médiatiques, puisqu'elle est souvent, cette question de l'intégration est souvent normative et qu'elle va contribuer à gommer cette pluralité dont je parlais à travers cette question des identités. Elle est souvent normative, elle est parce qu'elle sous-entend souvent un déficit, un manque d'intégration, puisqu'elle résonne par rapport à des capacités individuelles à s'intégrer à ce que l'individu devrait faire pour ressembler à, quand, me semble-t-il, la question devrait être celle des processus sociaux qui favorisent l'intégration, c'est-à-dire l'analyse des conditions sociales permettant à chacun d'être intégré. Parler d'intégration en ces termes, c'est-à-dire en s'interrogeant sur quelles sont les conditions sociales qui permettent à chacun de s'intégrer, oui, mais si on est sur cette conception plus normative, telle qui, me semble-t-il, est celle qui est diffusée par les politiques, me semble au contraire très préjudiciable. En tout cas, c'est face à ce malaise autour de cette notion d'intégration qu'on a privilégié une approche en termes de discrimination, et ce qui voulait dire qu'on reconnaissait les inégalités présentes dans la société française. Et donc, à travers ces inégalités, ce sera mon mot de la fin, il me semble qu'il faut penser justement ces discriminations subies comme étant le résultat d'un ensemble d'inégalités. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois des discriminations directes, explicitement racistes, mais que les discriminations sont aussi le résultat d'un processus, d'une accumulation de situations inégalitaires depuis l'école, la petite école, le lieu de résidence. Et comment, du coup, penser qu'une société intègre ses différents membres quand une partie d'entre eux vivent dans des conditions spécifiques, on l'a vu à travers la question du surchômage, la ségrégation résidentielle, de l'échec scolaire, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut mettre en lien ces différentes étapes du parcours. Et que pour pouvoir lutter efficacement, par exemple sur le marché de l'emploi contre les discriminations, il nous faut dérouler tout ce processus depuis donc ces premières années pour voir les différentes dynamiques à l'œuvre, ce qui est le rôle, me semble-t-il, d'une analyse des parcours. Et c'est à cette condition que l'on parviendra à une égalité de traitement. Et pour ça, donc, avoir cette approche temporelle qui permet donc de comprendre les parcours, de ne pas aplatir le temps au cours duquel se déroule ce processus d'intégration. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette conférence et pour ce tour d'horizon de l'ensemble des questions et des problématiques que soulève effectivement cette catégorie, cette notion de descendants d'immigrés. En plus, effectivement, on n'y avait pas pensé, mais ça tombe pile dans le débat médiatique autour des 10 ans, la question des banlieues. Ça tombe en même temps, ta conférence tombe en même temps que la programmation à Poitiers du film Fatima, qui aujourd'hui est diffusé dans les salles Poitvine. Donc effectivement, il y a beaucoup d'éléments de notre quotidien qui résonnent avec ta conférence. Et donc voilà, maintenant, sans perdre de temps, on vous demande de réagir, de poser les questions que vous le souhaitez. Merci.
Bonsoir, merci. J'avais une petite question à propos déjà de la méthodologie, parce que je suppose que toutes les données que vous nous avez décrites, c'est issu de l'enquête Théo, ou non, enfin je ne sais pas, voilà, vous amenez à préciser ça. Et la question aussi de la construction des catégories, à un moment vous avez dit si on prend descendants d'immigrés, non pas comme seulement... Enfin, les deux parents, mais un seul, ben, ça change du tout au tout pour la question de l'endogamie. Donc voilà, quelle est la solidité finalement de cette construction catégorique comme ça. Et puis après, juste une remarque en passant, là, comme vous avez fini sur la question de l'intégration, je me disais aussi le concept d'intégration, on peut l'entendre de deux manières, soit dans une perspective ensembliste, s'intégrer à, comme vous avez dit, ou soit bah, typiquement dans les textes de Durkheim, intégration, c'est plutôt compris dans le sens, d'une intégrale mathématique, de faire société à partir d'une multiplicité. Et donc, ça peut être aussi une source de réflexion, de repenser cette autre acception du concept d'intégration. Merci.
D'accord, ben merci. Oui, alors la méthodologie, vous avez raison. Lorsqu'il s'agit de résultats statistiques, c'est des données qui sont issues de l'enquête Théo. Alors, donc, que moi, j'ai retravaillé pour appliquer ma définition des descendants d'immigrés. Donc, c'est pour ça, effectivement, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en garde à un moment donné, notamment à travers l'exemple de la question des couples, voilà, pour montrer qu'effectivement, c'est du coup extrêmement important. Et bon, ce qui du coup renvoie à un débat beaucoup plus général sur la construction des catégories, parce qu'effectivement, on voit bien qu'on peut faire varier les chiffres. C'est-à-dire que tandis que avec les collègues avec lesquels j'ai contribué à ce papier, on peut dire que les taux d'union mixte sont majoritaires, nous, on montre le contraire. Donc évidemment, la question des catégories est extrêmement importante. Donc les résultats statistiques, CTO. Mais CTO avec ma définition. Donc, vous aurez des choses différentes, un peu différentes, en tout cas pour certains, pas pour tout, mais pour certains aspects. Et puis, sinon, moi, j'ai conduit par rapport. J'ai évoqué, là, j'ai résumé les trois ouvrages. Du coup, il y aura bientôt un quatrième ouvrage. Mais bon, par rapport à mes publications, c'est plutôt des enquêtes par entretien. Donc, des enquêtes, c'est un matériau qualitatif par entretien biographique. Même si souvent, j'ai travaillé, du fait de ces collaborations avec l'INED, dans une double approche où il y avait souvent quand même aussi des données statistiques. Mais bon, moi, ce que j'ai produit par moi-même, c'est des données qualitatives. Donc oui, donc la définition des descendants d'immigrés, bah oui, voilà, c'est ce qu'on disait sur l'importance des catégories. Et du coup, ça veut dire que ça nous incite, tous lecteurs que nous sommes, quand on lit un tableau, de bien voir effectivement de qui est la population dont il est question, parce que sinon, effectivement, on voit bien que on peut être induit en erreur. Alors, et après, sur la question de l'intégration, vous avez tout à fait raison, l'acception commune, politique, médiatique d'intégration, c'est s'intégrer à, et on attend des personnes de faire un effort pour s'intégrer à, quand la notion classique du terme d'intégration, donc par les penseurs qui... Les premiers penseurs, vous avez rappelé Durkheim, mais d'autres, ont pensé effectivement l'intégration comme étant la mission de la société d'intégrer ses membres dans cette idée de favoriser la cohésion sociale. Et c'est en ce sens-là, c'est pour ça que moi, ça me gênait d'intituler l'intégration des descendants d'immigrés, parce que ce n'est pas l'approche par laquelle moi j'ai posé cette question. Mais en même temps, si on doit... penser l'intégration au sens donc des conditions sociales que la société et donc qui renvoie donc à cette acception classique du terme, là oui effectivement on peut parler d'intégration.
Est-ce que la notion de quota,
je vous donne le micro.
Pardon, madame. Est-ce que la notion de quota renforcerait cette intégration pour faire société? Ou au contraire, ça serait jeter l'anathème sur les descendants d'immigrés.
Oui, comme vous voulez dire des quotas, ça se fait aux États-Unis, dans les administrations, dans les universités. J'avoue que j'ai pas d'opinion très tranchée. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on sait qu'on a besoin de mesures politiques. Ça a été le cas avec la parité pour les femmes. On sait qu'à un moment donné, il faut forcer les choses pour rendre possible. En même temps, on voit bien qu'aux États-Unis, tous les problèmes ne sont pas réglés, me semble-t-il, pour autant. Récemment encore, là, il y a eu tout un tas de crimes racistes, qui montrent que, voilà, que les États-Unis n'ont pas réglé non plus leurs problèmes, et pourtant, ils ont ces quotas à l'université, dans les administrations, etc. Donc, c'est pour ça, voilà, je ne suis pas complètement sûre que ça réglerait tous les problèmes. Par contre, qu'on ait une enquête comme l'enquête Théo, et c'était parmi les objectifs de l'enquête Théo, qui donne à voir justement l'écart, l'ampleur dans certains... la question du chômage est manifeste, quoi. Le fait de dire qu'ils sont deux fois plus souvent au chômage, le fait qu'on ait des résultats statistiques, ce qui a été mis en cause par certains, par contre. Et là, Là, par contre, ma position est très claire, c'est que je pense qu'on a besoin de ces données-là. Certains ont accusé que c'était qu'on produisait des variables ethniques et que du coup, c'était construire des populations qu'on réifiait, qu'on maintenait dans une origine, etc. En même temps, non, je pense qu'on a besoin de ces données pour prendre la mesure du problème et ensuite avoir des politiques qui permettent de corriger ces inégalités. Voilà. Après, c'est là où est-ce que ça va passer par des quotas. Je vous dis, quand je regarde l'exemple américain, je me dis que ça suffit peut-être pas, quoi. C'est...
Bonsoir. Deux petites remarques sur votre intervention. Un témoignage court pour rassurer Anne, qui m'a passé le micro en me disant de faire bref. Et une question. Dans les diapos, vous avez eu la quatrième diapo à peu près, père ouvrier, mère majoritairement inactive. Je trouve le terme maladroit. Je ne suis pas avocat des femmes originaires d'ailleurs, mais femme majoritairement, mère majoritairement inactive. Bon, vous l'avez dit, hein, elles ne sont pas salariées, mais mettre le mot inactif ne me semble pas correspondre à la plupart de ces femmes-là. Une autre chose qui me surprend, et ça, c'était pas vraiment dans les diapos, on parle d'émeutes urbaines, on parle de révoltes dans les campagnes, mais on parle pas de révoltes urbaines ou d'émeutes dans les campagnes. Et mine de rien, je trouve que ça traduit quand même un peu, quand on parle d'émeutes urbaines, ben c'est des sauvageons qui s'énervent, qui s'excitent un peu pour qu'on parle d'eux, ou parce que les médias les chauffent, mais il y a quand même sûrement des bonnes raisons, enfin des raisons, qui font que ben, ils se rebiffent. Quand ils ont des contrôles d'identité quasiment tous les jours par des policiers qui les tutoient, au bout d'un moment, ils peuvent en avoir marre. Quand, d'après ce que j'ai entendu, ils ont quatre fois moins de chances de trouver un emploi que des blancs comme moi, il y a peut-être de quoi se rebiffer. Un petit témoignage, quand il m'arrive d'être animateur dans des écoles, et quand je demande à des enfants d'une dizaine d'années d'où sont originaires leurs parents, ils me répondent, pour certains d'entre eux, africains. Et je suis surpris qu'ils ne puissent pas dire plus précisément d'où ils sont. Et je pense qu'il y a... Enfin, une des hypothèses, c'est que les parents n'osent pas leur parler de leur itinéraire parce qu'ils ont envie qu'ils s'intègrent en France. Mais comment un enfant avec une peau noire peut s'intégrer s'il ne sait pas un peu d'où il vient et le contexte de ses parents ? Et ça me fait penser que le Toit du Monde, qui est une association à Poitiers qui favorise les rencontres interculturelles, a organisé l'an passé une soirée sur les migrations portugaises. Et énormément de jeunes portugais étaient là et ont trouvé des informations qu'ils ne trouvaient pas dans leur famille pendant leur éducation. D'où l'intérêt aussi des lieux sociaux publics pour échanger. Et ma question, c'est, vous avez fait un zoom surtout sur les banlieues, et c'est vrai que ça rime un petit peu trop, peut-être médiatiquement, entre banlieue et génération immigrée, mais il y a aussi des immigrés en milieu rural. Moi, j'habite à Vinicieux, donc je connais un tout petit peu les environs, mais il y a eu des immigrés qui sont allés faire du travail dans les fermes viticoles du Beaujolais. Dans le Bordelais, il y a beaucoup d'immigrés du Maghreb, du Portugal et d'ailleurs, et la question, c'est, est-ce qu'il y a des... études aussi sur le degré d'intégration de populations en milieu rural. Ce qui me servirait aussi à comprendre peut-être un peu mieux pourquoi des régions comme Hénin-Beaumont, minières mais peut-être rurales, ont des taux de vote pour des partis d'extrême droite importants.
Alors, pour les maires majoritairement inactives, inactives, c'est une catégorie de l'INSEE. Voilà. Catégorie de l'INSEE, c'est les personnes qui n'ont pas d'activité salariée sont considérées comme inactives. Alors, dans cette catégorie inactive, il y a les retraités, il y a les étudiants et il y a les femmes au foyer. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis toujours pas d'activité salariée, parce qu'effectivement, ces mères sont loin d'être inactives, surtout quand elles ont eu les fratries avec de nombreux enfants, comme je l'ai dit. C'est clair, beaucoup m'ont dit qu'elles avaient l'impression que leur mère était des petites chefs d'entreprise, et je pense qu'effectivement, c'était plutôt le terme qui convient. Mais voilà, en tout cas, c'est la catégorie de l'INSEE. Alors, pour... Pour les révoltes urbaines et le fait que ça soit justifié, oui, je ne crois pas avoir dit le contraire. La marche pour l'égalité contre le racisme, donc là, on est sur quelque chose qui s'est passé il y a plus de 30 ans, était liée déjà à l'époque au fait d'une multitude de crimes racistes, d'une part, et du constat, on ne parlait pas de discrimination à l'époque, mais c'était des discriminations d'un traitement inégalitaire dans toutes les institutions, qu'elles soient scolaires, policières, c'était déjà pointé du doigt à l'époque. Donc aujourd'hui, on sait, on a beaucoup d'études qui le montrent, que le contact avec la police, qui sont deux fois... Là aussi, il y a un papier avec Théo où on donne les chiffres, combien de fois ils sont plus souvent contrôlés. Et puis, comme vous le dites, la manière dont l'interaction se joue, au-delà du contrôle, c'est la manière dont ça se passe aussi. Donc déjà au moment de la marche, c'était pour se révolter contre ce traitement qui leur a été fait, Et depuis, on n'a pas vu d'amélioration, si ce n'est au contraire un malaise grandissant à travers ces révoltes qui ont perduré. Et c'est un point où, effectivement, vu ce que vous rappelez, que je pense avoir dit par rapport à la question de la précarité, la difficulté à obtenir un emploi stable, etc., à des moments, c'est un point, quand on connaît un peu effectivement ce qui se passe dans les banlieues, on se demande comment ça n'explose pas plus, finalement. Bon, c'est peut-être pas très politiquement correct de dire ça, mais moi, à chaque fois, je me dis, mais finalement, c'est... Finalement, on tient relativement encore bien les choses, Alors, sur la question de la mémoire familiale, c'est effectivement un point tout à fait essentiel que moi, j'ai pu donc percevoir cette fois plutôt par les entretiens. Et dans ce travail que j'ai fait sur Grandir en banlieue là, par rapport à la génération des 20-29 ans, c'était très clair que ceux qui étaient les plus précarisés étaient... Ce que je leur demandais toujours, justement, depuis quand vos parents sont en France, quelques questions pour connaître, voir un peu ce qu'ils connaissaient de la mémoire familiale. Et dans le groupe le plus précarisé, il y avait... un très faible taux de réponse, Ils ne savaient pas, Alors, est-ce que c'est dans les familles où, du coup, les choses ne sont pas passées? Est-ce qu'ils s'en sont désintéressés du fait de leurs difficultés? Ça, je ne saurais pas trop dire. Mais en tout cas, il y avait vraiment un lien très clair entre leur situation sociale et ce trou dans la mémoire familiale. Tandis que ceux qui étaient les plus diplômés, les plus insérés et tout, savaient très bien que leur père était arrivé en 63, que leur mère était arrivée 3 ans plus tard, etc., Donc voilà, donc effectivement, cette question de la mémoire familiale, je pense qu'elle est importante. Et lorsque précédemment, j'avais fait pour ma thèse quelques entretiens, ça n'avait pas été systématique, mais quand j'avais rencontré ces cadres et ces entrepreneurs et que j'avais pu faire des entretiens en présence des parents, plus d'une fois, j'ai été surprise de voir que les enfants, parce que du coup, les parents intervenaient, disaient des choses, etc., et que les enfants découvraient des choses à cette occasion, Et effectivement, alors je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent à justement... là, j'ai vu qu'un collègue aussi avait publié un ouvrage là-dessus en collaboration avec des enseignants, un travail qui a été réalisé dans des classes pendant plusieurs années pour justement se réapproprier cette histoire. Alors, sur les immigrés en milieu rural, je l'ai un peu dit rapidement au début, quand j'ai dit justement qu'on ne pouvait pas se limiter à la figure de la banlieue, parce que justement, une partie d'entre eux, mais a fortiori pour ceux qui ont immigré il y a plus longtemps, et quand j'avais fait ce travail sur les cadres et les entrepreneurs, j'avais pu vérifier que beaucoup avaient grandi dans des petites villes, certains dans des villages, mais autrement dans des petites villes, dans des cités ouvrières. Alors, moi, c'est des choses que j'ai beaucoup pointé pendant ce travail, de l'influence de cette jeunesse qui s'était passée dans un autre cadre résidentiel. Je ne connais pas d'autres travaux, mais effectivement, je pense, pour moi, c'est un élément essentiel.
Juste pour préciser, si vous êtes vraiment intéressé par le milieu rural, il y a aujourd'hui un programme qui s'appelle... Je pense que ça passe. Juste pour vous préciser, il y a un programme également copiloté par l'INED qui s'appelle Lily, qui s'appelle Du lien au lieu. Et dans le programme Lily, il y a toute une partie de chercheurs qui se concentrent sur la présence des populations immigrées en milieu rural. Et là, vraiment, au sens statistique du terme, des petites communes. Et donc, il y a quelques premiers travaux qui sont déjà disponibles. Il faut que vous regardiez les travaux autour de Eva Lelièvre et Christophe Imbert et David Lesseau. Vous allez voir que... Mais là, il y a toute une série d'enquêtes de terrain qui vont être menées, notamment pour des phénomènes qu'on n'avait pas vus, des familles monoparentales, des femmes seules immigrées avec enfants en milieu rural. Notamment, ça concerne le Poitou-Charentes, puisqu'il y a un terrain qui va être mené au sud d'Angoulême, avec la présence de population dans cette catégorie-là.
J'ai une petite question ou remarque sur un petit peu sur ce travail qualitatif, puisque tu suis ces différentes générations dont tu as parlé depuis 20 ans. Et quel est le regard entre générations, justement, sur l'évolution de cette situation, sur l'évolution de ces formes de citoyenneté? Est-ce que tu arrives à capter
ou est-ce qu'il y a des études? J'ai pas compris juste ce que... la phrase d'avant.
Le regard, en fait, de la perception. D'accord. Par les plus anciens, enfin... pas forcément que ceux qui ont fait la marche dans les 80, mais aussi des générations intermédiaires, par rapport à ce sentiment d'exclusion plus fort, à peut-être cette moindre implication politique, puisque tu as dit que c'était quand même des générations fortement politisées, donc ça ne s'exprime pas forcément par des formes classiques d'action politique. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Moi, je n'ai pas travaillé directement cette question. Et on pourrait imaginer un travail qui porte justement sur différentes générations et qui croisent leurs regards. Donc moi, c'est plus quelque chose que je reconsidère a posteriori, une fois fait ces différents travaux. Je pense que c'est une forme de peut-être un peu de désillusion, de... je pense que globalement, le sentiment qui apparaît, c'est d'être étonné que 30 ans après, les choses n'aillent pas mieux, quoi, et qu'au contraire, il y a... Alors, c'est vrai que le contexte a évolué aussi, hein, le contexte de l'emploi, etc. Et c'est pour ça qu'il me semble important de resituer toujours par rapport au contexte dans lequel on est, que ce soit au niveau macro-socio-économique ou locaux. Mais en tout cas, voilà, c'est cette forme de déception, de désillusion, de voir que... parce que je crois que dans les années 80, ce qu'on percevait justement dans... malgré ce qui les révoltes, les émeutes qui se passaient à ce moment-là, il y avait un optimisme très fort, quoi, en pensant que voilà, qu'on allait se mobiliser. Alors, pour en même temps, ils vivaient aussi encore à l'époque avec des parents qui maintenaient le mythe du retour, mais malgré tout, eux se vivaient en France, se projetaient ici. Et du coup, oui, je pense que voilà, ils n'imaginaient pas que 30 ans après, on soit dans cette situation, quoi. Et puis, pour certains, un peu aussi une surprise par rapport à la question religieuse aussi. De se dire, finalement, nous, c'est quelque chose qui a été important parce que dans notre famille, voilà, ça a toujours été présent, on a toujours vu nos parents pratiquer, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit avec les jeunes générations, c'est aussi une revendication qui passe par ce biais-là. Et ça, c'est quelque chose qui étonne.
Donc, bonsoir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais aimé intervenir parce que votre exposé a été très, très riche. Je vais en choisir deux. Vous avez parlé de l'ambition des familles et du désir d'intégration, du désir de réussite pour leurs enfants, etc. Et je trouve que, pour aller très vite, je trouve que dans la société française, contrairement à la société anglo-saxonne, on ne prend pas ça en compte. C'est-à-dire que cette énergie ou cette positivité et ce désir, enfin quelque chose qui est très positif, on le met pas en valeur, et ce qui fait que on positive pas ces immigrés finalement, alors que je trouve que la société anglo-saxonne que je connais un peu met ça en valeur, et donc ça crée une intégration beaucoup plus plus riche, quoi. Et ça permet à la société anglo-saxonne de devenir plus, d'ailleurs, un peu plus sur le devant de la scène mondiale un peu plus importante. Deuxième point, vous avez pas parlé, vous avez parlé du retour au bled ou des vacances au bled. Moi, j'aimerais savoir aussi si le fait que justement ces immigrés qui retournent au bled parfois se sentent plus valorisés d'être, ils sont quelque part importants ailleurs qu'en France, plus valorisés parce que bon, même si on sait très bien que c'est pas le cas. Ils ont l'impression d'être mieux, enfin d'être plus riches au retour. Et puis aussi, il y a le retour au pays. Voilà. J'avais lu quelque part que en fait, en France, les immigrés pensent à leur retraite repartir au pays. Le retour au pays est plus important en France des immigrés que dans les autres pays. C'est-à-dire qu'en France, on se sent peut-être pas autant français avec ce désir de partir un jour. Alors que dans d'autres pays, je pense encore une fois à la société anglo-saxonne, ils sont là, et ils sont là pour toujours. Enfin, ils n'imaginent pas rentrer au pays. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'était les deux points que je voulais, sur lesquels je voulais vous exposer.
D'accord, merci. Ben oui, sur cette ambition des familles, c'est, je l'ai dit peut-être rapidement, plusieurs fois je me suis fait cette réflexion que si on avait dans les années 80, dans les premiers travaux qu'on portait sur justement le rapport de ces familles à l'école, plutôt que de pointer du doigt le fait que c'est des familles qui étaient analphabètes, qui n'étaient pas en mesure d'aider leurs enfants, qu'elles étaient démissionnaires face à l'école, etc. Si au contraire on avait vu l'effort qu'elles faisaient, qu'elles fournissaient pour encourager leurs enfants, qui malgré justement ces difficultés, parce que c'est une réalité, une partie de ces familles ne sont pas lettrées en langue française, si au contraire on avait pointé que comment malgré tout elles arrivaient à soutenir et à soutenir leurs enfants, à les pousser, on aurait eu un regard complètement différent sur ces familles. Et du coup, je vous rejoins sur cette idée, oui, de valoriser, de positiver ce qui est fait. On a eu une approche radicalement différente, quoi. Et c'est vrai, je me dis que si les premiers travaux avaient été là-dessus, il y a le premier travail qui est Zaya Zeroulou dans les années 80, qui a été la première à mettre en avant justement la question de la réussite scolaire dans ces familles. Et si ce travail avait été réalisé même avant, et c'est lui qui avait donné le ton, peut-être que les choses auraient été vues différemment. Alors sur le deuxième aspect, je ne sais pas vous répondre, parce que vous parlez du retour au pays des immigrés. Moi, je n'ai pas travaillé sur les immigrés, mais sur leurs enfants. Donc, j'ai envie de vous renvoyer. J'ai des collègues qui travaillent spécifiquement sur ces questions. À l'INED, il y a tout un pôle qui travaille sur ces questions de retour. Il y a un programme actuel aussi qui s'appelle MAFE, qui porte sur l'immigration africaine, qui concerne y compris des... Donc, qui porte sur des immigrés, quoi, sur une population d'immigrés, ce qui n'est pas...
Donc, on arrête là. Puis moi, j'ai la dernière question. Non, effectivement, c'est toujours par rapport à ce que même, c'est en fait, avec votre question, avec une question précédente, avec des interventions d'Emmanuel, c'est toujours effectivement cette question des deux modèles, un peu, le modèle à la française et puis le modèle un peu nord-américain, quand vous posez la question des quotas, etc., une discrimination positive. Effectivement, on est toujours un peu coincé dans ce modèle-là. Est-ce que, étrangement, on pourrait se demander. Un peu cette pudeur française qui dépasse largement le modèle, c'est-à-dire que très très peu sont les hommes ou femmes politiques aujourd'hui qui acceptent de revendiquer leurs origines d'enfants d'immigrés, enfin descendants d'immigrés, etc. Et il suffit de voir, on a quand même beaucoup de ministres qui pourraient le revendiquer, ils le taisent assez facilement, ils en parlent peu, ou en tout cas ça se fait toujours un peu en dehors de leur carrière, un peu au lendemain de leur activité politique, ils sont interrogés là-dessus, si vous êtes d'en parler, et effectivement. On est toujours un peu dans cette tension-là. Est-ce qu'il y a un modèle meilleur qu'un autre? Malheureusement, je pense qu'il n'y en a aucun des deux. Mais il faudrait trouver un peu l'équilibre entre, entre ces deux-là en termes de politique publique, si on,
on doit trouver une troisième voie qui soit efficace.
Une troisième voie, effectivement. Mais c'est vrai qu'on est toujours étonné aussi, vous en parliez tout à l'heure, de voir une communauté portugaise qui peut, dont les je ne sais plus comment il faut l'appeler, la Nixième génération, dans une soirée, découvre un peu ses origines, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est face à des situations, comme tu disais tout à l'heure, les personnes interrogées sont toujours étonnées de voir que la situation n'a pas évolué, n'a pas changé, mais on est encore aussi face à des... Il suffit d'observer un peu les entrées d'école, hein, des mamans qui freinent énormément de parler dans une langue étrangère à la proximité de l'école, hein, pour pas que leurs enfants puissent être discriminés, qu'on puisse se rendre compte que leur maman ne parle pas bien français, etc. Donc, ces familles qui taisent à la fois leur joie de se retrouver après la sortie d'école, mais en même temps, qui dévalorisent par rapport à leur enfant une culture d'origine et la joie de se retrouver dans sa langue à ce moment-là, etc. Donc, du coup, c'est aussi des questions très sensibles aujourd'hui et qui peuvent apparaître très étonnantes, hein, qu'après toute cette évolution et l'histoire de l'immigration en France, on en soit encore à cette difficulté-là. Ça m'amène à vous dire, parce que je sais que Anne m'a souligné que j'ai oublié de le dire la dernière fois, donc avant de te remercier, que c'est des questions qui vont être un peu sous-jacentes dans les différentes conférences qui vont suivre, puisque par rapport à cette question de modèle autre, et notamment un modèle nord-américain, on aura donc... également la joie d'accueillir le jeudi 19 novembre donc à 18h30 comme toujours Pap Ndiaye qui viendra nous parler de la façon de penser politiquement le monde afro-américain aujourd'hui en termes d'identité, en termes de minorité. Donc là on reviendra un petit peu sur ce modèle un peu anglo-saxon du rapport aux minorités et à l'identité. Et puis un petit peu plus tard, là on sera en 2016, mais ça me fait penser que on abordera aussi une question qui est assez méconnue à travers une population particulière qui est la population d'origine chinoise en France, puisqu'on abordera le recours et l'usage des soins psychiatriques chez les migrants et chez les descendants d'immigrés chinois en France, et notamment toutes ces difficultés qui sont liées à la dette à rebours, comme on dit, hein, qu'ils peuvent avoir par rapport à leurs parents, et qui va aussi se télescoper avec leur propre trajectoire socio-professionnelle en France. Et là, on accueillera donc le 4 février prochain Simeng Wang, qui a fait tout un travail de recherche en thèse sur cette question-là, sur une approche psychiatrique de la question de l'immigration et des descendants d'immigrés. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, Anne. Encore une fois, pour vous remercier chaleureusement, pour vraiment te remercier, Emmanuel, d'être venu à Poitiers pour nous parler de... Merci à vous. Donc, merci à vous tous. Et donc, la prochaine fois que nous pouvons nous retrouver, c'est le 19 novembre avec Pap Ndiaye.